Donc, nous rentrons, Michel et moi, d'Hélène Ministry, et nous avons vraiment à cœur, étant donné que nous sommes aujourd'hui le couple pastoral de cette église, de vous mettre au bénéfice de ce que nous avons vécu durant ces 17 jours. Alors voilà, donc je vais laisser la parole à Michel entre deux dans certains domaines. Et voilà, donc le Seigneur Dieu notre Père ne veut pas que nous allions mieux, il veut que nous allions bien. C'est la finalité, c'est un chemin. Il veut que nous allions bien. Et nous sommes tous en travaux. Et Dieu nous guérit, nous restaure selon le temps kairos, selon le temps favorable. Parce qu'il ne peut pas nous donner tout de suite. Il ne peut pas nous restaurer, nous guérir tout de suite. Parce que peut-être que pour certains, ce serait trop violent. Alors Dieu est un gentleman et le Seigneur prend son temps. Dieu, notre Père, a un plan de sauvetage pour le monde. Et Dieu tient toujours ses promesses. Il veut restaurer, guérir son peuple et chacun d'entre nous, sans exception. Oui, mon frère, ma sœur, chacun d'entre nous. Et ne nous trompons pas. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors le but de ce partage ce matin, ce n'est pas une prédication, c'est un partage, c'est un témoignage. Ce n'est pas de faire l'éloge, l'apologie de l'œuvre et l'aile. Non, non. Notre restauration, notre guérison est en Christ, mais c'est de vous témoigner de la grandeur de Dieu dans ses œuvres, dans les œuvres de restauration, de guérison qu'il accomplit. Voilà, le but de Dieu, c'est de restaurer son troupeau, nous allons le voir par la suite. Alors nous devons rendre gloire à Dieu pour ses œuvres, oui. Et c'est un Dieu qui renouvelle, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Nous devons adorer Dieu, non ses œuvres, mais nous devons adorer notre Père. Nous vivons un temps particulier où Dieu souhaite restaurer l'Église de Jésus-Christ afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Frères et sœurs, c'est Dieu. Nous allons, et j'ai à cœur en tant que pasteur, de travailler sur l'évangélisation de Wavrin et des WEP. Mais j'ai vraiment reçu, durant ces 15 jours, que c'est Dieu qui va faire venir les hommes et les femmes dans notre assemblée. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut être prêt pour les recevoir. Et c'est pour ça qu'il faut, et je vais vous le dire dans quelques instants, réparer le filet. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des lèles à plusieurs reprises. Mais je veux vraiment, avec Michel aujourd'hui, nous voulons être les témoins de son action et de sa grâce. Nous sommes allés plusieurs fois en Angleterre. Nous avons vécu en 2015 le module A durant 15 jours. Là, nous avons vécu 17 jours dans cette enceinte. Et Dieu tient ses promesses. Et dans Philippiens 1, au verset 6, la parole nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je vous le répète, Dieu va aller au bout des choses, dans la restauration de votre esprit, de votre cœur, de votre âme et de votre corps. Préparez-vous, frères et sœurs. Dieu est en train de préparer son Église. Nous devons rester enseignables parce qu'il n'y a que dans la dimension où nous restons enseignables que nous restons transformables. C'est une clé, rester enseignable. Et ça, il faut, mes amis, pouvoir mettre un genou à terre, parce que Dieu résiste à l'homme et la femme orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est dans notre faiblesse que nous reconnaissons que le Seigneur nous enseigne et nous renforce. Selon sa volonté, il utilise les travaux de restauration, et pour ces travaux, il utilise à sa convenance, c'est lui, il est omniscient, omniprésent. De temps en temps l'appel, de temps en temps la pioche. Et je peux vous dire que moi, pendant ces 15 jours, il y est allé au bulldozer. On a été vraiment bousculés, touchés, mais toujours dans l'amour, parce que Dieu nous aime. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Je ne sais pas si je vais vous refaire l'historique. Peter O'Riban, c'est O'Robin, merci Michel, c'est le fondateur, c'est lui qui a reçu la vision à Bolton en Angleterre. Il vient d'une famille chrétienne. Il s'est engagé à l'âge de 12 ans pour Christ. Il a conscience de son appel à l'âge de 16 ans, et il prend son baptême par immersion, par obéissance. Et après ses études, il poursuit son chemin avec le Seigneur. Et puis c'est un grand amateur de voitures de collection, et puis il répare des voitures. Et Dieu un jour va lui parler, lui, oui, mais toi, tu es capable de redresser un châssis de vieille voiture et ensuite de la remonter alors qu'elle est complètement en pièces. Mais moi, lui dit Dieu, je suis capable de restaurer les vies. Il reçoit, moi, je suis capable de restaurer les vies. Ces vies qui sont complètement brisées, tous ces gens qui sont cabossés. Dieu dit à Peter, moi, tu vois, je suis capable de restaurer les vies. Alors quelques jours après, Dieu lui parle à nouveau et lui dit, je veux que tu passes le reste de ta vie à amener la guérison à ceux qui sont dans le besoin et à enseigner à d'autres à en faire autant. Alors de 76 à 86, il garde ça dans son cœur. Et lors d'une conférence, dans une assemblée, il est inondé par l'amour de Christ. Il reçoit la compassion pour les âmes perdues et pour toutes ces personnes qui sont blessées. Et il va rentrer toujours dans ce chemin de compréhension. Il s'attend au Saint-Esprit. Il s'attend à être éclairé. C'est ce qu'on parlait ce matin, la lumière. Et puis il recherche un lieu. Il recherche un lieu. Il y a trois mots-clés. Il y a l'acceptation. L'acceptation. On est accepté dans la mesure où on prend mesure de notre identité. C'est la clé du refus, du rejet, de la guérison du rejet. La restauration, restaurer, être guéri, oui. Et puis, il est prêt pour le service. Il a envie, il a une vision, il veut marcher avec le Seigneur. Et alors, il se met à la recherche d'un local, et puis il y a L.L. Grange. Et bien sûr, un peu comme Robert Reeve, quand il a acheté le château, il n'y avait pas d'argent, et puis le banquier, il lui a ri au nez, quoi, un petit peu. Et puis, bon, mais Dieu lui dit, c'est ici le lieu, réclame ça pour moi. Et c'est ce qu'il va faire, et puis il va installer Elleble, et avec un financement miraculeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est que quand Dieu donne la vision, et bien vous savez ce qui se passe quand Dieu donne la vision? Et bien, il donne la provision. Dieu est toujours cohérent dans chaque chose. Et l'argent arrive miraculeusement. Et l'œuvre de Dieu s'installe. Alors il a fallu, bien sûr, dans ce lieu, qui était il faisait de la balnéothérapie, hein, bien sûr, il a fallu purifier les lieux, faire des onctions d'huile, vraiment que ce soit une habitation sainte. Et voilà, c'est ainsi que L.L. Ministry a vu le jour. Et ensuite, il y a eu l'ouverture de Glenley Manor, où Michel et moi nous sommes allés à plusieurs reprises. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un centre. L.L. est dans le monde entier. Nous revenons de Saint-Laurent-du-Pont. Et il faut savoir que depuis maintenant plus d'un an, il y a à Roubaix, L.L. Lille, où nous allons finir le module A avec un enseignement sur la peur au mois d'octobre. Alors la vision d'Hellel, c'est une organisation missionnaire. Elle est chrétienne, elle est non confessionnelle, ce n'est pas une église, d'accord ? Elle n'est pas ecclésiale. Et la vision, c'est d'équiper en accueillant les personnes. Et surtout, la clé, c'est leur enseigner les clés, la réalité du royaume de Dieu. Parce que il est écrit dans Luc 9 au verset 11, et ça c'est un verset clé pour Hellel, « Les foules l'ayant su, le suivirent, Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu, il les guérit, aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. » Alors la mission, elle consiste à mettre en œuvre la vision reçue à travers le monde, là où Dieu ouvre des portes, en accueillant avec la grande mission du Seigneur et l'appel de l'Église à proclamer le royaume de Dieu et ainsi prêcher la bonne parole. Alors, on revient toujours à Ésaïe 61, qui est un verset clé. Alors, j'étais surpris parce que moi-même, j'avais reçu ce verset dans mon cœur et au fur et à mesure que je recevais ce verset, je l'entendais régulièrement autour de moi et ça faisait écho. Et j'ai un grand frère dans la foi qui me dit, mais Pascal, ce verset doit être dans le cœur de chaque chrétien. Il doit être dans le cœur de chaque chrétien. Nous sommes tous appelés à vivre ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Ésaïe 61. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les tibères. Tirer bête de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à vivre Ésaïe 61. Nous sommes tous appelés à vivre Ésaïe 61. Jésus est oint pour guérir. Nous sommes appelés à prier pour nos frères et sœurs dans la mesure où nous sommes formés pour le faire. Parce que Dieu appelle, mais Dieu pourvoit, et c'est lui qui forme. Le péché, on le confesse et nous demandons pardon. Les démons, nous les chassons dans le nom de Jésus. Mais les blessures, seul Jésus peut guérir les blessures dans le cœur de chacun en son temps. Amen. Alors on va vous parler maintenant, Michel et moi, de ce que nous avons vécu pendant cette période. Nous étions plus de 50 élèves répartis dans les deux bâtiments et il y avait des personnes qui campaient, il y avait des personnes qui avaient loué des gîtes, voilà. Et ce lieu d'Hellel Ministry, c'est une fraternité où le périmètre d'une façon virtuelle et spirituelle est délimité par la sainteté du Seigneur. C'est-à-dire que spirituellement, ce lieu est protégé. Est protégé par la prière. Il y a des personnes dans le monde entier qui ont prié pour nous durant ce temps où les élèves étaient là pour nous protéger spirituellement. La formation était très lourde. Nous avons eu en temps et pour tout qu'un dimanche pour nous reposer. Et nous sommes allés avec Michel au lac de Aigbelette. Nous avons passé une journée exceptionnelle. C'était vraiment bien. On s'est fait un bon petit restaurant avec une bonne bouteille de vin. C'était vraiment super. Et puis voilà, on pensait avoir retrouvé nos 25 ans. Allez. Hein? Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que durant ces temps, nous sommes appelés à servir Dieu. Michel et moi, nous sommes appelés à servir Dieu ici, dans notre église, et aussi dans les temps de ministère à Hillel. Et nous sommes appelés, comme d'autres couples, à nous purifier. Et beaucoup de couples, durant Hillel, ont été malmenés. Beaucoup de couples ont été bousculés. Parce que nous avons dû mettre au plus profond de ce qu'il y avait dans les oubliettes de nos cœurs, Dieu nous a demandé de les mettre à la lumière de sa grâce. Et quelquefois, je peux vous dire que ça fait très mal. Et on a vécu des moments très difficiles. Les couples ont vraiment vécu des moments très difficiles. Voilà. Mais il faut passer par là pour pouvoir rentrer au service de Dieu. Et nous verrons par la suite comment Dieu agira encore parmi les gens qui veulent, qui sont appelés. Ça c'est bon. Alors voilà, l'organisation des journées, nous avons travaillé 15 jours complets. Alors 8 heures c'était le petit déj, je sais pas, imaginez un petit peu la charge. 8 heures le petit déj, 8h45 la louange, 8h15 on démarre les cours. 9h15 on démarre les cours. De 9h15 à 12h15, on est en cours avec une demi-heure de pause. On reprend à 14h jusqu'à 17h avec une demi-heure de pause. De 17h15 à 18h30, on a des ateliers de guérison. Et de 20h à 21h15, on a des ateliers de créativité. Et ça a duré 4 jours. Et tout de suite, en arrivant, nous avons eu un temps de ministère personnel. Chacun, nous avons été reçus par deux équipiers de prière. Pour ceux qui vivent Hillel, déjà là, vous voyez ce que c'est. Et puis, bon, voilà, on a déjà pu avoir la prière, recevoir et déjà être nettoyé. Nous avons signé un engagement de confidentialité, non seulement devant les personnes avec qui nous avons partagé, mais surtout l'important, c'est la confidentialité devant Dieu. Seigneur, tu vois, je m'engage. Je m'engage dans la confidentialité. Sachez que Michel et moi, cet engagement, nous l'avons pour vous aussi, en tant que responsable d'église. Voilà, nous avons vécu aussi des ateliers de groupe. C'est-à-dire que moi, je suis appelé à devenir leader de groupe. Donc, j'étais moi-même co-leader d'un leader dans un groupe de 10 personnes. Et ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que tous les groupes qui ont été devant moi, il n'y avait que des femmes, j'étais le seul homme. Alors ça, c'était extraordinaire par rapport aux problèmes que j'ai avec certaines femmes. C'était extraordinaire que le Seigneur m'amène à recevoir une guérison. Et cette guérison, elle était formidable. Voilà. Et ça, dans les groupes de chant, dans différents groupes, j'étais le seul homme parmi tant de femmes. Et je peux vous dire, après, à la fin, ils sont venus m'embrasser. Et vraiment, j'ai vécu un moment extraordinaire. Merci Seigneur. Nous avons vécu des temps de ministère. Des temps de ministère où là, il y a eu 3 étudiants. C'est-à-dire, il y avait 2 personnes qui donnaient, qui donnaient, et une personne qui recevait. Et là, dans un but d'apprentissage. C'est-à-dire, une personne reçoit la prière et 2 personnes prient. Voilà. Plus un superviseur, parce que le but de ces petits ateliers, c'est d'apprendre à prier, d'avoir les clés pour prier, pour libérer dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, la clé, c'était, par rapport au partage, où est le péché de la personne? Où est la racine du péché? Pourquoi cette personne est aussi emprisonnée? Pourquoi cette personne est malmenée? Pourquoi l'addiction? Pourquoi cette blessure? Pourquoi cette personne est emprisonnée dans un schéma de pensée? Est-ce qu'il y a eu des abus? Est-ce qu'il y a eu... Voilà. Donc, le but, c'est de faire un plan de prière afin d'amener la prière au nom de Jésus pour délivrer la personne. Voilà. La confession, la repentance, le renoncement à ses péchés. Couper les liens d'âme, je vous expliquerai après. Amen. La délivrance au nom de Jésus. Michel, est-ce que tu veux dire quelque chose à propos de ces groupes, par rapport à ce que tu as vécu dans les groupes de 10, dans les groupes avec Evelyne, est-ce que tu veux partager quelque chose?
Bah, bizarrement, dans ces groupes, moi j'étais aussi avec que des femmes, et le leader c'était un homme. Et bah, bien sûr, la signature de la confidentialité, c'est parce qu'on nous confie des choses quelquefois très intimes d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas d'aller le répéter et de faire encore plus mal à la personne, au contraire, c'est nécessaire pour vraiment prier avec efficacité. On a besoin de savoir quel est le problème réel. Donc les gens nous confient, alors c'est par rapport à l'enseignement. On a un enseignement, et pendant cet enseignement, le Saint-Esprit nous révèle certaines choses. Et je peux vous dire qu'il révèle des trucs, mais alors qui datent même d'avant la naissance quelquefois. Donc des choses vraiment très précises, et qu'on a oubliées, mais c'est incroyable, hein, des trucs, tu n'y penses plus, parce que, et même quelquefois, des blessures graves que tu as subies quand tu étais enfant et que tu as oubliées, parce qu'on a cette capacité, nous les humains, d'oublier, d'enfouir. Mais c'est quelque chose qui est en nous et qui nous fait mal tout au long de notre vie, mais on n'en a pas du tout conscience. Et ça nous permet de le mettre à la lumière, et que les personnes qui sont là dans le groupe prient avec efficacité pour ce problème, justement. Et c'est le seul moyen pour que Jésus puisse nous guérir, sinon c'est pas possible. Il faut vraiment que les choses soient mises à la lumière, et ça c'est écrit dans la Bible, de mettre à la lumière tout ce qui peut être péché. Alors c'est pas forcément un péché que la personne elle-même a fait, ça peut être un péché que quelqu'un de sa famille a fait, ou alors que quelqu'un de son entourage, que ce soit dans les écoles ou autre, il y a eu des abus comme ça. Ça peut être des abus très, très difficiles à exprimer, comme un viol, ça c'est clair, mais ça peut être aussi un prof qui t'a dénigré, qui t'a dit des choses qui ont fait que ton comportement après, ta personnalité, elle est écrasée. Et donc c'est important de dire tout ça. Voilà. Voilà. Et on prie avec efficacité en sachant les choses. Et on coupe les liens d'âme, ça certainement.
Oui. Les mauvais liens d'âme qui sont entre la personne et nous, on demande vraiment à Jésus-Christ de pouvoir nous libérer de l'enfer de cette personne.
Oui, oui.
Nous envoyons les bons liens d'âme à cette personne.
On rend à chacun ce qui lui est dû, en fait.
C'est un travail extraordinaire. On a vraiment vu les guérisons, les délivrances en nom de Jésus.
Oui, c'est clair. C'est clair. Alors, bah, bien sûr, on a eu des gens qui étaient secoués, comme certains couples. Il y a des couples vraiment qui ont été... à certains moments, ils se demandaient s'ils allaient rester ensemble. C'était tellement difficile à vivre. Et puis, tout compte fait, il faut pas abandonner en cours de route. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, parce que la guérison, elle est là. Et tout compte fait, après, ils voyaient que effectivement, c'était nécessaire de passer par cette souffrance pour pouvoir avoir leur guérison et justement rebâtir les choses sur quelque chose de stable.
Et surtout pas sur des
mensonges. Que ce soit tout soit à la lumière, et que ce soit sous l'onction de Dieu. Voilà.
Voilà. Si tu veux, on va parler de la créativité.
Ah, oui.
Je te laisse libre.
Alors, la créativité, c'est un atelier particulier. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est sympa. En fait, Dieu est créateur, il nous a créés, et en nous, on a une capacité de créativité que bien souvent, à cause des blessures, à cause des dénigrements qu'on a eus au cours de notre enfance, eh ben, on n'exploite pas. Et c'est vrai que moi, la première fois que je suis allée en Angleterre, j'ai dit, je veux pas aller dans ces trucs. Et c'est vrai que pendant une heure, j'ai tourné à regarder ce que les autres faisaient. Il y a des choses qui m'ont attirée, et du coup, j'ai fait des choses. Et ça te permet de savoir que t'es capable de créer des choses. Toi, tu fais ça, Christine, l'atelier de créativité. Et ça te permet aussi de savoir que tu sais pas tout faire. Parce que il y a des gens qui se disaient, je vais essayer, oh, c'est bien ce qu'il fait là, je vais le faire aussi. Puis tu y arrives pas. Et en fait, Dieu, il veut te dire que tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout savoir faire. Mais bon, ça lui permet aussi de t'envoyer des messages. Parce que il y avait un atelier notamment cette année avec toute la récupération. Alors il récupérait plein d'objets, et puis il se mettait en groupe et il choisissait ce qu'il voulait, il prenait les objets qu'il voulait, puis après, ben, Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et il crée des choses après la prière. Et quelquefois, ils mettaient les choses de côté. Et puis, en regardant les autres, ils recevaient le message de ce que les autres étaient en train de faire. Et après, il y avait un moment de prière en groupe. Et ils analysaient ce que les autres avaient fait, ce que chacun avait fait. Et selon ce que la personne avait fait, eh ben, il y avait des messages aussi. Les autres recevaient, on pouvait recevoir au travers de ce que les autres faisaient, un message pour nous-mêmes. Et je trouve que c'est vachement, vachement intéressant, ça te permet de te connaître mieux aussi, ça. C'est vraiment très bien. Il y a après, tu peux aussi avoir ton état d'esprit du moment. Il y avait un atelier de peinture. Alors, ils étaient deux personnes. On avait mis des grandes feuilles par terre. Il y en a une des deux qui s'allongeait. L'autre personne dessinait sa silhouette. Et après, celui dont on avait dessiné la silhouette mettait de la peinture pour exprimer ce qu'il ressentait sur l'instant. Et ça donnait des choses quand même incroyables.
Ouais. Vous avez votre silhouette par terre. Et vous devez remplir le dessin avec différentes peintures. Alors vous remplissez ce que vous êtes. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dans cette créativité, vous avez, comme les enfants dans les petits programmes, vous savez, on leur fait faire des pièces de théâtre pour que des choses qui sont enfouies en eux puissent sortir. Et là, la créativité, ça sert aussi à ça. Le Seigneur va, vous parle dans votre cœur et va chercher loin des choses que vous pouvez exprimer sur le dessin et sur différentes choses. Et c'est là qu'arrive la délivrance, la liberté du Seigneur. Et moi, ma silhouette était par terre, je l'ai remplie. Et je ne pensais pas que j'avais tout ça dans mon cœur. Je ne pensais pas que j'avais tout ça dans mon cœur. Et ça a vraiment été quelque chose pour moi de ça a été une réalité. Voilà, tu as besoin de guérison, tu as besoin que le Seigneur te guérisse de ça. Et à la fin, Michel a vu le dessin, hein, on l'a arraché, on l'a fait, mais c'est bien, je reçois ta guérison, ta restauration.
Alors, il y a eu un témoignage intéressant par rapport à cet atelier. Il y a un vieux monsieur, là, combien il y avait, 80 ans. Et lui, en fait, il n'était pas venu pour suivre le module. Il venait pour pas être tout seul, pour accompagner sa femme, parce que c'est sa femme qui s'était inscrite. Mais comme il voulait pas rester tout seul, il est venu avec elle. Alors, donc, il écoutait les enseignements et tout. Puis, il est entré dans le jeu un petit peu. Il a participé à l'atelier de créativité. Et quand il a fait sa silhouette, la peinture qu'il a mis au niveau de la tête, c'était rouge, tout rouge. Et il a été surpris, quoi, que ce soit comme ça. Et il a pu exprimer, effectivement, ce qu'il avait, ce qu'il ressentait par rapport à ça. Et du coup, bah, ça libère les choses, ça libère plein de choses. Et c'est vraiment super, hein, franchement, oui. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques objets qu'on a créés nous-mêmes dans les cours, dans les ateliers de créativité. Donc vous pourrez regarder ce que c'est.
Eh bien, merci Michel. Voilà, donc on en arrive à la créativité. Je vais vous parler, je vais encore prendre jusque midi, je vais vous parler de différents thèmes que nous avons abordés. Je ne peux pas vous réduire en une demi-heure 15 jours de cours, c'est pas possible. Mais je vais essayer de vous apporter les points fondamentaux, parce qu'on a vraiment eu des révélations, on avait vraiment eu des enseignements. Ouh, c'était lourd, 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 lourd. Et voilà, il faut savoir que la guérison, la restauration, le but de Dieu, c'est de nous rendre cette image. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le péché nous a déformés. Vous voyez ? Et c'est un péché générationnel qui est dû à la chute de l'homme dans le jardin. Et le but de la restauration, c'est la remise en ordre. C'est la remise dans l'alignement esprit, corps, âme de l'homme. Voilà. C'est d'être au fil à plomb, être à l'ordre de Dieu. C'est ça la restauration. Ça met un certain temps. C'est la transformation à l'image, à notre image originale. Parce que nous avons, je le répète, été réparés, créés à l'image de Dieu. Alors Dieu veut réparer son filet. Dieu veut réparer son Église. Vous voyez, nous avons travaillé sur le filet. Rémi avait eu une très belle image, un songe. Et c'est, ça fait écho par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre ici. Alors, le premier thème que nous avons abordé, c'est la vérité sur nos relations. Réparer le filet dans l'Église, c'est réparer nos relations dans notre Église. Nous aimer les uns les autres. Abolir les mensonges, abolir les manipulations, abolir le jugement. Vous voyez, ça, c'est les relations que Dieu veut. Et alors, quelle est ma part de responsabilité dans ces bonnes relations ? Je ne suis pas celui à qui on a posé des choses sur moi. Je suis celui que Dieu veut que je sois. Alors, comprendre les relations, c'est à la lumière du Seigneur que nous allons comprendre comment aimer notre frère et notre sœur. Mais Satan, même dans l'Église, s'attaque aux relations fraternelles. Il veut la division, vous voyez ? Il veut la division dans notre couple, il veut la division dans nos amis, dans notre famille, et aussi dans notre Église. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit au pardon, pour avoir jugé, critiqué, rejeté notre prochain, notre frère dans l'Église. Nous avons parlé de la libération, de la liberté. Nous avons parlé tout à l'heure de libérer les liens d'âme, de couper les liens d'âme. C'est Jésus, tous ces mauvais liens d'âme qui prennent forme dans les mauvaises relations entre les frères et les sœurs. Vous voyez, quand on se critique, quand on s'insupporte, il y a quelquefois dans les églises, on ne peut pas voir celui-là, il nous insupporte. Je ne te regarde pas, Rémi, hein, excuse-moi, hein, ce n'est pas pour toi. Vous voyez, bon, je vais regarder par là. Voyez, alors, il y a un certain moment, on ne se supporte plus. On n'a pas envie de lui dire bonjour, on n'a pas envie de lui parler, parce que, oh, qu'est-ce qu'elle va encore me dire, celle-là qu'elle... Alors, voyez, il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail de pardon, il y a un travail de réconciliation, il y a un travail de renoncement au jugement. Et il faut aussi couper les mauvais liens d'âme qu'il peut avoir entre les frères et les sœurs dans l'Église. Amen. L'amour et l'intimité. Mais oui, c'est une décision. Aimer, c'est une décision. Et pour pouvoir aimer, il faut rentrer dans l'intimité. Vous voyez, si vous venez tous les dimanches à l'Église, qu'on se dit bonjour, on se dit au revoir... Mais comment veux-tu aimer ton frère et ta sœur si tu ne rentres pas dans une intimité avec lui ? Comment veux-tu dépasser la superficialité de la relation fraternelle dans l'Église si tu ne vas pas ? Et si, il est dit, recevez-vous les uns les autres, créez l'hospitalité envers vous. Moi, je sais qu'il y a encore certaines personnes que je dois inviter ici dans l'Église. On va le faire, Michel et moi. On va le faire, Michel et moi. Voilà, donc... Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, ça c'est vrai. La confiance, nous avons abordé la confiance. Ben oui, dans le mensonge, et notamment dans l'Église autour de nous, le mensonge. Mais comment on peut faire confiance à quelqu'un qui nous ment ? Comment on peut faire, dire, mais attends, mais si tu m'as menti pour ça, mais tu m'as peut-être menti pour le reste ? Sur quoi je base ma relation fraternelle ? Comment je base ma relation dans mon couple ? La confiance, ça se restaure. Nous avons parlé du respect, comment nous perdons le respect, comment nous le gagnons. Nous avons parlé de toutes ces relations de l'interdépendance. L'interdépendance, l'interdépendance, c'est ce que nous devons vivre dans l'Église. Oui, Christine, j'ai besoin de toi, ma sœur. J'espère que tu as besoin de moi. Vous voyez, c'est l'interdépendance au sein du corps du Christ. T'es pas jaloux, Jacques ? Merci. Vous voyez, la codépendance, c'est une relation impie. C'est une mauvaise relation. La codépendance, elle est construite à travers la manipulation, à travers le contrôle de la personne. Vous voyez ? Et nous avons regardé tout ça, nous avons travaillé aussi sur la colère. Qu'est-ce qui gère notre colère ? Qu'est-ce qui nous amène la colère ? Quelle est la racine profonde que nous avons en nous de la colère ? Pourquoi je me mets en colère ? Pourquoi la colère est juste? Jésus aussi s'est mis en colère. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à libérer cette colère? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui a été posé sur nos vies? Nous avons travaillé sur le ministère de la délivrance, la guérison et l'alliance de Dieu avec l'homme. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non, il ne peut pas être possédé. Il peut être démonisé, mais il ne peut pas être possédé. Nous sommes une habitation par Dieu, comme une maison. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes convertis. Nous sommes à la lumière de Jésus. Mais nous sommes sur un chemin de sanctification. Il faut savoir qu'en nous, il y a encore des choses à guérir. Il y a encore des choses à mettre à la lumière de la grâce de Dieu. Il y a encore des choses, Michel le disait, qui sont enfouies, que nous avons enfouies bien profondément. Voilà. Et la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui va nous mettre tout ça à la lumière et qui va pouvoir nous permettre d'être à l'image de Dieu et de porter du bon fruit. Voilà. Nous avons travaillé aussi sur l'occultisme, sur le New Age. C'est extraordinaire, le Nouvel Âge. Sur tout ce que le monde nous propose aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Hein? C'est assez extraordinaire. La pratique occulte et la poursuite du secret, du mystique, du magique et du surnaturel en dehors des instructions de Dieu. Quand l'homme recherche un pouvoir qui n'est pas de Dieu, il donne un accès à l'ennemi. Le New Age recherche sa propre sagesse dans les questions spirituelles. Alors la liste est longue, hein. Vous avez la projection astrale, vous avez les médiums, les gourous, la réincarnation, la réalisation de soi, vous voyez, toutes ces thérapies alternatives, la radiesthésie, l'acupuncture, l'homéopathie, l'hypnose, etc., etc., etc. Nous avons vu aussi dans les détails les sectes et les fausses croyances, les fausses religions. Vous savez ce que c'est qu'une religion, vous savez ce que c'est qu'une secte. Hein. Bon, la secte, c'est un emprisonnement de façon spirituelle. On vous vole votre volonté, on vous vole votre âme. Vous voyez ? Et il est écrit dans la parole, dans Exode 23, tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Nous avons regardé de très près les arts martiaux. Nous avons regardé de très près les arts martiaux. Il faut savoir qu'à un certain niveau, les arts martiaux sont sous l'autorité d'un maître spirituel. Il y a certaines prières, il y a certaines choses qui sont faites. Il faut savoir que derrière les arts martiaux, il y a en général le bouddhisme, l'hindouisme, le chiotisme et le taoïsme, qui sont des religions d'Asie, hein, et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et alors quelque chose qui nous a marqué, Michel et moi, très fortement, très 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 fortement, c'est quelque chose qu'on apprend aux gosses maintenant dans les écoles, c'est le yoga. On a eu du mal à s'imaginer l'impact du yoga aujourd'hui. Il y a différents yogas, différents niveaux. Il y a quatre grandes familles de yoga. Il y a des mots associés au yoga. Mais il faut savoir que quand vous êtes dans le yoga, vous avez aussi ce voyage astral. Et ce voyage astral, c'est votre esprit qui sort de votre corps. Vous imaginez un petit peu, c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Et vous avez ce maître yogi qui va prendre autorité sur votre esprit. Et vous n'allez plus être maître de votre esprit. Et alors il y a quelque chose, il n'y a pas d'enfant, ça va. Ça va, il est en âge de comprendre, ça va. Alors, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ces mots associés au yoga, et notamment le Kundalini. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le Kundalini ? Kun, ça s'écrit K-U-N-D-A-L-I-N-I, Kundalini. Alors c'est une pratique, moi je suis allé sur internet, vous tapez Kundalini, vous allez voir, il y a beaucoup aujourd'hui d'associations qui pratiquent le yoga qui portent ce nom. Et alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais mauvais. Ces gens dans la méditation réveillent le serpent, le cobra qui est en eux. Il faut monter le serpent dans leur corps. Oui. Alors, c'est un serpent qui va prendre et qui va monter au niveau de la colonne vertébrale jusqu'à la tête de la personne. Et il va y avoir une union entre la déesse Shiva et un autre dieu. Et alors, ce qui est extraordinairement mauvais, c'est que la personne dans le summum va aboutir à une jouissance sexuelle. C'est le diable. C'est Satan qui est en l'œuvre chez la personne. Nous, ça nous a vraiment marqué, hein. Alors, un autre sujet qui nous a marqué profondément, nous avons été enseignés toute une après-midi sur la franc-maçonnerie. Ouh, c'est du lourd. C'est du lourd. Nous avons été informés sur les mots de passe, sur les pratiques, sur les initiations. Comment les gens, même si au plus bas niveau, l'initiation de la personne, il y a plus de 60 degrés. Il faut savoir qu'à chaque degré, la personne proclame des vœux de mort sur sa vie. Si elle ne respecte pas certaines choses, il va lui arriver les pires choses selon les degrés. C'est des proclamations de mort et de malédiction. C'est satanique. L'initiation, il y a le capuchon sur la tête, il y a les yeux bandés. On met une corde autour du cou de la personne. On lui met un compas planté sur son cœur. Et ces personnes vivent comme ça, sous une autorité et avec l'œil de la franc-maçonnerie. Et personnellement, en tant que co-leader de prière, j'ai assisté à la délivrance d'une femme qui était sous l'emprise d'un esprit maçonnique. Et je peux vous dire que c'est réellement satanique. On a vu des manifestations assez extraordinaires. Voilà, donc là c'est pour ça. Nous avons eu aussi Evelyne qui est venue nous enseigner sur le burn-out. Alors elle nous a fait une démonstration avec son sac à dos. Son sac à dos était complet, était plein. Et puis elle nous a sorti tout ce qu'il y avait sur son sac à dos. Et puis ce qui m'a surpris, c'est qu'en tant que bonne chrétienne, eh ben, sur tous les bouquins, sur tout ce qu'elle avait mis, elle avait mis sa Bible. Ouais. On n'est pas fait pour porter autant de choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50 doses d'antidépresseurs pour 1000 habitants par jour. Le stress est le résultat d'une pression, d'une tension causée par une source externe et interne. L'anxiété, l'appréhension chronique, état de mal-être, tout ça, c'est ce qui pourrit la vie des gens. Comment y remédier ? Nous mettre selon l'ordre de Dieu, selon le fil à plomb de Dieu. Dieu ne nous demande pas son joug. Le joug de Jésus-Christ est léger. Il ne nous demande pas d'être comme ça, plié en deux par rapport à tout ce que l'homme ou ce que nous nous mettons nous-mêmes sur nos vies. Il ne nous demande pas ça. Le but de Dieu, c'est que l'on puisse recevoir la guérison du Saint-Esprit plutôt que de prendre des cachets. Mais quand on entre dans un burn-out, il faut savoir que c'est l'hospitalisation. C'est un mal-être profond qui est du domaine de la psychiatrie. Alors nous devons, et c'est ce que j'ai dit à mon épouse en rentrant, parce que je suis parti à LA, j'étais très 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 fatigué, contrarié et fatigué. Et la bonne décision en rentrant, c'est de pouvoir se reposer. pouvoir se relaxer, pouvoir prendre une bonne distance avec le stress et les angoisses et tout ce qui nous malmène. Voilà. Et rectifier ma marche, et surtout avec le Seigneur. Je regarde l'heure qui tourne. La guérison des abus. Alors les abus, on peut en parler. C'est pas toujours des abus physiques. On entend toujours parler des abus sexuels. Oui, ils existent et ils sont graves. Ils sont graves. Mais il y a l'abus verbal, le mensonge. Le mensonge. La moquerie, Michel en parlait tout à l'heure. Il y a l'abus physique, oui, la violence. Les gosses qui ont été battus. Bien sûr, les abus sexuels, les attouchements. Les abus financiers. Il y a des femmes aujourd'hui qui vivent avec leur conjoint, qui n'ont pas un sou, qui n'ont rien, qui sont obligées de vivre avec ce que leur mari leur donne. Ce sont des abus financiers, ils sont prisonniers. Dans certaines religions, ça fonctionne comme ça. On fait un gosse, deux gosses, la femme est à la maison, elle peut pas s'habiller comme elle veut, elle peut rien faire. Ce sont des abus graves. Alors il y a les abus de la religiosité, tous ces gens qui ont été dans un carcan religieux où ils ne pouvaient pas bouger, les fausses doctrines, les sectes, les abus des pasteurs dans certaines églises. On pourrait témoigner. Et la manipulation, oui. Nous avons parlé aussi de la libération des dépendances. Quelles sont les racines de nos dépendances? Une personne qui se consacre habituellement à une pratique qui entraîne une dépendance dans son corps et dans sa pensée. La personne qui est dépendante donne le contrôle d'une partie de sa vie à une substance ou à un comportement. Pourquoi aujourd'hui les gens sont dépendants de la cigarette? Pourquoi aujourd'hui les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer? Pourquoi les gens aujourd'hui sont prisonniers de l'alcool? Quelles sont les racines? Il y avait une publicité à la télévision. Pourquoi tu bois? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que je bois. Non. Non, 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 non. Derrière cette addiction, il y a une racine profonde. Vous voyez? Pourquoi on est addict aux somnifères? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on est addict au chocolat, au café? Vous allez me dire, c'est pas trop grave le café et le chocolat. Il y a pire, il y a la drogue. Pourquoi on est addict au sexe? Ce qu'on appelle le sexolisme. Pourquoi on a cette impureté sexuelle? Quelles sont les racines? Qu'est-ce qui nous a fait que dans notre enfance nous soyons addicts? Pourquoi nous sommes addicts de la pornographie? Pourquoi ton homme, moi ça m'a un peu gêné parce que il mettait le fait que c'était souvent l'homme qui apportait les cassettes porno et la pornographie dans le couple. Mais aujourd'hui, je pense que les hommes et les femmes sont à égalité dans ce domaine. Vous voyez, on peut être addict au niveau de l'ordinateur, au niveau de l'argent, au niveau de la nourriture. Personnellement, j'ai reçu la prière pendant ces 15 jours pour la nourriture, parce que j'ai trop mangé. Je suis un enfant d'après la guerre. Mes parents ont été privés de nourriture pendant la guerre, et ensuite ils m'ont donné trop à manger. Et on a fait le nécessaire. Je leur ai pardonné. Le but, c'est de découvrir toutes ces racines, le mécanisme de dépendance qui découle et qui nous a donné ces comportements addictifs. Apporter la vérité du royaume rend libre à toute dépendance. Et là, nous vivons les temps de ministère. Transformer, le thème suivant, transformer par le renouvellement de notre intelligence. Le but, c'était d'apporter la compréhension et la guérison dans tous nos systèmes de croyance. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de croyance. Nous fonctionnons avec des systèmes de croyance. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un système de croyance qui nous emmène dans un fonctionnement qui n'est pas réel? Nous avons travaillé, nous avons pris des temps de ministère pour comprendre le cœur et les blessures que tous ces comportements nous ont amenés. L'esprit de performance, l'esprit de la honte. Quels sont nos schémas de pensée qui nous amènent à avoir, à être honteux ou honteuse de certaines choses. L'apitoiement, le rejet, la culpabilité. Nous avons aussi travaillé sur les relations d'aide. Nous avons terminé les 2 jours et nous avons reçu vraiment les clés pour pouvoir aider les personnes dans le besoin. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Nous avons vu des sketchs, nous avons vraiment été mis en situation. Voilà. Et nous avons vraiment vu aussi la différence entre une relation d'aide chrétienne et une relation d'aide séculaire, c'est-à-dire du monde qui peut être fait par un psychologue ou un psychiatre. Quelle différence ! Ces gens-là ne guérissent pas l'esprit. Seul Dieu guérit l'esprit. Amen. Toutes les clés du trousseau nous ont été données à Michel et à moi et à toutes les personnes qui étaient là pour nos ministères. Mais la caisse à outils appartient au Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas de prière magique. C'est l'œuvre de la croix. Et c'est l'œuvre de la croix qui amène la guérison pour la gloire de Dieu. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, j'ai encore 2 minutes. Est-ce que tous sont appelés dans ce ministère d'aide? Seul Saint-Esprit peut vous le dire. Nous, on peut voir qu'il y a des personnes, ce ne sera pas possible, et elles en sont conscientes. Vous voyez, mes frères et sœurs, dans un ministère d'aide, nous voyons si le ministère est de Dieu aux fruits qu'il porte. Une personne ne peut pas entrer dans un ministère d'aide si cette personne n'est pas guérie. Personnellement, je ne suis pas seul. Jésus est parfait. Moi, je ne le suis pas. Michel n'y est pas non plus. Mais nous avons aujourd'hui reçu des guérisons qui nous permettent d'être dans un ministère d'entraide. Il faut savoir que si les personnes sont dans un ministère d'entraide et qui ne sont pas guéris, ils vont emprisonner l'autre dans leur souffrance. Si une personne était abusée par un homme, si une personne était abusée par un abus verbal, quand elle va se retrouver devant une femme qui aurait été abusée, je ne vous dis pas ce que les hommes vont prendre si cette personne n'a pas été guérie, si cette personne n'a pas été restaurée. C'est bien. Vous voyez, la prière le dimanche, c'est bien. Vous allez dans une soirée, on fait appel à Pierre, Paul, Jacques. Ah, c'est quelqu'un qui a une onction, c'est quelqu'un. D'abord, c'est le Seigneur qui guérit, d'accord ? Mais il faut savoir que on peut très bien prier pour quelqu'un le dimanche matin. Mais il faut savoir que souvent, cette personne revient le dimanche suivant et le pneu est à plat. On l'a regonflé, mais le pneu est à plat. Pourquoi ? Parce que quand vous retrouvez devant des problèmes comme la sexualité, quand vous vous retrouvez avec des problèmes démoniaques, comme le yoga, comme la franc-maçonnerie, quand différentes addictions, vous devez entrer dans un plan de cure d'âme. C'est-à-dire que vous devez accompagner la personne pour qu'elle puisse avoir la révélation de son mal-être, pour qu'elle puisse reconnaître la racine du mal, la racine du péché, la racine de l'abus. Il va falloir que cette personne puisse le confesser. Il va falloir que cette personne puisse pardonner. Il va falloir qu'elle puisse pardonner à Dieu et se pardonner à soi-même, à elle-même. Il va falloir ensuite qu'elle puisse se repentir d'avoir pu avoir ce genre d'acte. Il va falloir aussi qu'elle renonce à ses actes. Et ensuite, il va falloir qu'on coupe les liens d'âme par rapport à toutes ces situations et qu'on puisse la libérer dans le nom de Jésus. Alors, vous voyez tout ça, la prière du dimanche matin, elle est bien. Mais quelquefois, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement pastoral pour certains cas, parce que la délivrance ne se fait pas en 10 minutes dans une prière le dimanche matin. Vous savez, j'en parlais avec Michel, on voit dans certaines assemblées des pasteurs, des prédicateurs, et puis il y a quelqu'un qui est démonisé, et puis la personne arrive devant, « Au nom de Jésus !» Puis la personne, elle crie, elle bave, elle hurle. Vous pensez que le démon, il sort ? Vous pensez vraiment que le démon va sortir ? Mais non, frères et sœurs, le démon ne sortira pas. Vous n'avez pas fermé les portes. Si vous ne fermez pas les portes au démon, mais le démon ne sortira pas. Si la personne n'a pas renoncé au droit que le démon a sur sa vie, mais comment voulez-vous que le démon puisse sortir ? Non, il sortira jamais. La personne, elle rentrera, elle reviendra le dimanche suivant, elle sera toujours aussi mal. Parce que la personne n'a pas confessé son péché. Parce que la personne n'a pas demandé pardon. Parce que la personne n'a pas renoncé. On n'a pas coupé les liens d'âme dans la situation de la personne ou dans la circonstance où elle a vécu ça. À ce moment-là, nous pouvons, dans le nom de Jésus, Satan, esprit, tu sors et l'esprit sort. Vous comprenez ? C'est pour ça que Michel et moi, nous sommes allés à la ministrie. C'est pour ça que nous avons vraiment, Michel et moi, envie de réparer les filets. C'est pour ça que nous allons nous mettre, Michel et moi, au service ici de notre assemblée et au service d'autres églises, nous verrons, et nous allons travailler dans ce sens. Alors, moi, en tant que pasteur, je vais commencer mes visites pastorales. Je vais commencer à vous rendre visite. Je ne vais pas m'inviter à manger, ce sera peut-être m'inviter à boire un café. Je ne vais pas vous forcer, Si vous n'avez pas envie de me voir, vous ne me verrez pas. Ok ? Mais sachez que je suis à votre disposition en tant que pasteur pour vous rendre visite. Et comme nous sommes, Michel et moi, aujourd'hui formés, équipés, nous sommes tous les deux maintenant équipés de prière au sein du ministère LL. Nous ne ferons pas du LL ici, d'accord ? Mais nous utilisons les outils LL. Nous sommes formés et nous souhaitons vraiment mettre ces compétences à votre service. Alors nous allons vous proposer de nous contacter, si vous voulez, si vous avez besoin d'aide. Voilà. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et bien sûr dans la totale confidentialité. Rien ne sortira. Le but, c'est de réparer les filets. Le but, c'est que notre Église soit restaurée et soit guérie. Amen. Amen. Voilà, il est midi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de vivre ces temps difficiles, mais combien nécessaires, et ces temps qui nous ont restaurés. Et Seigneur, nous allons, Michel et moi, nous mettre au service de ton église avec un grand E, ici à Wavrin, et ensuite voilà, nous allons nous mettre, le couple pastoral, à ton service. Et Seigneur, nous te demandons vraiment de bénir là maintenant toute notre assemblée. Seigneur, tu vois tout ce que tu m'as mis à cœur de partager, Seigneur, si ça a travaillé les cœurs là ce matin, Seigneur, révèle, et tu vas amener à l'aboutissement tout ce que tu as mis dans les cœurs, Seigneur, pour la guérison, pour la restauration des âmes, Seigneur. Tu veux que ton peuple n'aille pas mieux, mais qu'il aille bien. Seigneur, voilà, je te confie mes frères, mes sœurs, Seigneur, et qu'ils soient vraiment dans ta main, et qu'ils soient vraiment convaincus, la réalité de ton amour profond. Même aujourd'hui, si nous ne sommes pas parfaits, toi seul, Jésus, est parfait. Voilà, bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.